Voilà, Radio Campus 106.6, émission Quoi de neuf se poursuit. Un magazine donc, on va dire, sur l'actualité culturelle régionale et bien au-delà. Et aujourd'hui, on va parler même d'histoire, d'une certaine manière, de citoyenneté aussi, beaucoup. Avec donc Catherine Baudet qui nous a rejoint, qui est professeure d'histoire-géographie donc dans un lieu bien connu, hein, et c'est le lycée Montebello de Lille, un très beau lieu, hein, j'aime toujours rentrer, enfin même de l'extérieur déjà, c'est un lieu
superbe.
Ah, incroyable.
J'ai demandé le poste à Montebello parce que je trouvais les bâtiments superbes.
J'imagine. tu peux nous dire un petit point avant d'être un lycée, ce bâtiment
lui, ça a été un hôpital,
oui.
Et c'est devenu après une maternité. Il y a un moment où j'avais des élèves qui étaient nés à Montebello, mais plus maintenant.
Ouais, ouais. Donc voilà, un vieux lieu lillois, voilà. En briques, à l'ancienne, magnifique. Oui. Hein. Et il est très grand en plus. Hein.
Très très grand, il y a 12 ailes, il est immense.
Ouais. Donc quand j'y vais, on se perd souvent. Et donc voilà, dans ce lycée, c'est normal, des élèves, c'est la moindre des choses. Ils sont nombreux à Montebello ?
Oui. À peu près 1300 élèves.
Ouais, c'est quand même beaucoup. Ouais. Donc pour un lycée qui a un peu une spécialité, je pense. On dit un lycée international.
Oui, il s'appelle Lycée International Montebello. Mm-hmm. Bon, on y a beaucoup de langues, japonais, italien, anglais, espagnol, polonais, chinois. Qu'est-ce que j'oubliais, aidez-moi.
Néerlandais aussi.
Portugais. Et il y a des sections internationales. Il y a une section internationale britannique, une italienne et une espagnole.
Voilà. Donc, autour de la table des élèves du lycée Montebello, pas tous, les 1500 peuvent pas rentrer dans le studio. Je vais pas dire qu'on a fait une sélection, ils se sont sélectionnés eux-mêmes pour venir dans cette émission, porter un projet, plus qu'un projet, une réalisation qu'ils ont conçue ensemble, en équipe, avec des gens très sérieux qui ont fait le secrétaire de rédaction, d'autres le montage, etc. Donc on va écouter leur production dans quelques instants. On va peut-être faire un petit tour de table pour les présenter. Donc, de ma gauche à ma droite, alors il y a Elias devant moi. Bonjour Elias.
Bonjour.
Tu es intervenu comment dans cette équipe
Dans cette équipe
Tu as fait quoi exactement?
J'ai principalement participé au projet, c'est pas moi qui ai dirigé le travail, mais j'ai simplement participé, cherché des documents et trouvé des choses à dire.
Peut-être tu pourrais nous donner le thème.
Le thème, c'est comment se faire entendre en tant que citoyen français et européen.
Voilà, donc c'est la question de l'Europe revient souvent en ce moment. Hein.
Ce n'est pas que le hasard. C'est parce que c'était les élections européennes.
Ben oui.
Et que je voulais élargir aussi, je ne voulais pas que ce soit que des expériences françaises.
Mmh. Alors ce matin, j'ai eu l'occasion au conseil régional d'assister à une grande, grande réunion sur les mobilités à l'international, c'est-à-dire Erasmus+, etc. Très intéressante. Je pense qu'on reviendra sur ce qu'on a pu voir.
On pourrait faire une émission là-dessus sur Erasmus.
Je pense qu'on pourrait imaginer en termes de perspective d'ouverture aussi. Hein. Voilà. Donc, on a dit tout à l'heure que le lycée Montebello était international à l'intérieur, aussi qu'il y a des échanges qui se font avec l'extérieur.
Et comme les élèves de BTS, certains partent avec une bourse Erasmus aussi. Hein,
voilà. Donc, effectivement, ce sera intéressant de voir sous cet angle-là les pays qui intéressent, les destinations qui pourraient intéresser les jeunes de ce lycée. Mmh. Peut-être un petit sondage un jour, tu sais.
C'est vrai.
Voir un micro-trottoir, pourquoi pas, avec des justifications, pourquoi ça, pourquoi que si. Ça pourrait
être
bien. Hein. Mmh. On y pense pour l'année prochaine, Catherine.
Oui. C'est avec Anaïs, peut-être.
Avec Anaïs, hein, bien sûr. Donc Anaïs qui est également présente. Tu vas bien, Anaïs?
Ah, ça va, et vous?
Ah, super. Donc on s'était rencontrés il y a 2 mois, peut-être même pas. Hein. Et c'était l'occasion de discuter un petit peu vous pour essayer de comprendre, d'analyser quel était votre projet, comment je pouvais éventuellement vous donner quelques conseils. Visiblement, ça a fonctionné, on va écouter le résultat. Et puis, vous allez après le commenter, ce résultat. Donc, toi, tu as fait la gestion.
J'étais chef de projet. Puis, je me suis occupée de ma partie, effectivement, et aussi des transitions. Donc c'est vraiment pas grand-chose non plus. Hein. Bon. Le gros du travail a été fait par vraiment toute l'équipe. Ouais. On était vraiment soudés.
C'était quand même une bonne idée de mettre un chef de projet.
Je pense qu'on aurait pu se débrouiller s'il n'y avait pas eu de hiérarchie parce que bon, c'était pas vraiment un projet énorme non plus, mais bon, on va dire que c'est un petit peu plus rassurant d'avoir quelqu'un qui est là pour aider un peu plus. Mmh.
Est-ce que ça permet de rester dans le timing ou pas?
Dans le timing. Après, c'est vrai que bon, moi, j'étais pas forcément sur le dos de tout le monde non plus. Hein. Tout le monde était vraiment autonome. Mais sinon, pour le timing, question timing, non, je pense pas. Non.
Et l'assemblage final, comment ça s'est négocié?
Bah, en fait, on a surtout vu, enfin, c'est surtout les groupes individuellement qui ont fait leur propre partie. Puis tout a été lié grâce à des transitions que du coup. J'ai créé.
Voilà, donc on va écouter un peu comment tu as monté tout ça. On va donner la parole à Fatoumata. Bonjour Fatoumata.
Bonjour, comment allez-vous?
Heureux de te retrouver, bien sûr. Alors depuis un mois et demi, deux mois là qu'on s'est vu du chemin, voilà, tu as vu beaucoup de, enfin tu as travaillé sur du contenu, sur du concept, et puis peut-être est-ce que tu as amené ta touche personnelle à cet édifice?
Non, mais parce que Fatoumata...
Si, elle va parler.
Non, elle n'a pas participé au projet.
Elle était quand même dans le lycée, donc elle en a entendu parler. Est-ce qu'il y a des échos par rapport à un événement comme ça qu'on présente aujourd'hui? Est-ce que tu as ressenti des gens qui en parlent, des parents qui attendent? Comment ça se passe?
Non, de mon côté, je n'ai rien entendu.
D'accord. Donc là, tes parents écoutent l'émission?
Ouais, je crois, mon père, il est en train d'écouter.
Eh ben, tu vois, ça, c'est un événement, par contre. D'accord. Alors, on va donner la parole à Julien. Hein, qui est...
Bonjour.
Bonjour, Julien. Donc, voilà, qu'est-ce que tu as proposé à l'équipe et qu'est-ce qui a été retenu qu'on va entendre?
Bah, moi, j'ai fait une partie du projet sur le référendum.
Oui.
Et bah voilà, j'ai participé comme un membre normal du groupe. Voilà.
Quand tu dis référendum, tu peux préciser?
On va parler principalement du référendum en général, et après on va faire une petite parenthèse sur le RIC qui a été proposé par les Gilets jaunes.
Très bien. Donc on va écouter ça, on revient là-dessus après avec quelques questions que je vous poserai, et puis aussi des commentaires libres. Hein. Bien sûr, vous êtes sur une radio libre, Radio Campus, 106.6 FM, campuslille.com. Si vous voulez réécouter, c'est possible dès tout à l'heure de réécouter l'émission sur le site de Radio Campus. Voilà. Donc je vous propose toute petite virgule musicale et on enchaîne sur cette production du lycée Montebello qui dure 8 minutes à peu près. On se retrouve tout de suite après.
Français et européens veulent se faire entendre. Mais on se demande souvent comment il est possible de s'exprimer en politique et d'être écouté en retour. Certains préfèrent se taire, d'autres, eux, veulent se faire entendre et utilisent des méthodes comme la manifestation. Mais qu'est-ce que c'est exactement? La manifestation, c'est une sorte de réunion publique dans le but d'exprimer ses opinions. Ce terme a été utilisé à partir du milieu du 19e siècle et l'une des manifestations les plus connues était celle de mai 68, qui a duré un mois et trois semaines, où les étudiants se révoltaient à propos des discriminations dans les classes. Pour savoir plus exactement ce que c'est que la manifestation, allons voir les personnes concernées, les manifestants eux-mêmes. Qu'attendez-vous de cette manifestation?
Pour la manifestation pour le climat?
Oui. C'est bon, franchement, moi je suis pas responsable. Mais je pense que ce qu'on attend, c'est que le gouvernement réagisse pour une fois et qu'on voit que les jeunes sont motivés pour changer.
Est-il important pour vous qu'il y ait un très grand nombre de participants pour faire une manifestation et pourquoi?
C'est important parce que avec beaucoup de personnes, le message il passe mieux.
Plus on est de monde, plus ça montre notre volonté. Du coup, le nombre est vraiment important. On peut pas faire une manifestation à trois, on sera pas pris au sérieux.
Êtes-vous d'accord avec toutes les revendications ou est-ce que vous avez votre propre avis?
Je suis d'accord pour toutes les revendications, bien sûr.
Alors, on peut pas être d'accord avec tout. C'est une question de principe, on n'a pas tous les mêmes avis.
Sur celle-ci, non, moi je suis d'accord sur tout.
Vous pensez que la manifestation est le meilleur moyen de s'exprimer?
C'est pas le meilleur, mais c'est intéressant.
Je pense qu'il faut bien s'exprimer d'une manière ou d'une autre.
C'est peut-être pas le meilleur moyen, mais c'est le moyen qui est plus accessible à tous, je dirais.
Pensez-vous que les personnes qui sont concernées par cette manifestation vont ensuite réagir grâce à elle?
Ça va changer un peu, mais pas des masses. Hein.
Pour l'instant, ce que je trouve bizarre, c'est qu'on ait des milliards à faire la manifestation. Peut-être pas des milliards, mais des millions, ça c'est sûr. Mais il n'y a pas de changement.
Après, là, ils font un peu l'oreille sourde, le gouvernement, et je trouve ça très dommage.
Est-ce que vous connaissez d'autres manières de vous exprimer directement ?
Alors, d'autres manières de s'exprimer ? Faire des affiches.
Les lettres.
Par écrit, dans les films.
Pour conclure, la manifestation est un bon moyen de s'exprimer. Les gens peuvent s'y retrouver et exprimer leurs idées en les criant haut et fort. Même si elles n'aboutissent à peu de choses, elles prouvent que la France et le monde possèdent une population libre de s'exprimer.
Tiens, c'est radical comme technique. Vous n'avez pas un moyen plus discret ?
Pourquoi ne pas lire des articles de la presse libertaire ?
Qu'est-ce ?
Les citoyens français et européens veulent se faire entendre.
La presse libertaire en France, un moyen de s'exprimer.
La presse libertaire, ou dite anarchiste, est apparue pour la première fois en France en 1864.
Peu après les débuts du courant de pensée anarchiste libertaire en France,
la presse libertaire est étroitement liée à des questions de politique.
La presse libertaire se dit libre et indépendante.
Libre d'exprimer ce qu'elle souhaite sans aucune restriction.
Indépendante car elle ne dépend pas de publicité, de l'État et de toutes sortes de subventions.
La presse libertaire est aujourd'hui également un moyen de reprendre des idées à l'abri de toute forme de censure.
Cette forme d'expression propose un contenu d'information alternatif par rapport à ce qui est proposé dans les gros journaux, par exemple Le Monde, La Voix du Nord, Le Figaro, etc. etc.
Dans chaque région, il est possible de trouver un journal différent. Dans le Nord, nous avons La Brique. À Marseille, on trouvera CQFD. La liste est longue.
Le plus connu d'entre tous est Le Canard Enchaîné, qui propose un point de vue humoristique et satirique sur l'actualité du moment.
Cette forme d'expression est également présente sur Internet ou encore à la radio.
Radio Libertaire en région parisienne, Radio Campus à Lille.
Vous n'avez pas quelque chose de plus clair ?
Ah si, bien sûr, il y a le référendum.
Racontez-moi.
Les citoyens européens veulent se faire entendre. Ils peuvent le faire grâce au référendum qui est un système de démocratie semi-directe. C'est l'État qui propose des questions où on répond par oui ou par non.
Un procédé qui est utilisé dans beaucoup de pays, comme par exemple en Suisse, où c'est dans ce pays où il y a eu le plus de référendums, mais il est utilisé dans plein d'autres pays européens comme l'Italie, la France et autres. C'est l'État qui pose une question, mais souvent, bah, c'est comme là, par exemple, le RIC, où le sujet il est proposé par les citoyens, et l'État le propose à la France entière, et on répond par oui ou par non. Et si c'est par oui, bah, le projet il sera adopté, et par non, pas du tout, enfin, il sera abandonné.
Alors, moi, je vais vous parler de quelques référendums célèbres. Donc, il y a le référendum de 1969, initié par Charles de Gaulle, donc c'est pour la réforme du Sénat. Il va finalement être refusé. Et cela va... Bah, après, il va y avoir la démission de Charles de Gaulle, après.
Nous, on pense que le référendum, c'est vraiment un bon moyen pour le peuple de donner un avis sur une question et qu'on devrait en faire plus souvent. Parce que c'est vraiment la manière la plus directe pour se faire entendre, parce que le peuple, il aimant oui ou non de ses envies, enfin, de ce qu'il pense. Et du coup, ça permet vraiment au président et tout ça de savoir ce qu'on en pense de leur loi ou autre.
De plus, cela peut être aussi négatif, car certaines questions peuvent être compliquées et pas être comprises par tout le monde. Donc, faut faire attention à la formulation des questions, etc.
En quoi un journal permettrait aux Français et aux Européens de se faire entendre ? En France, le premier journal imprimé est La Gazette, créé par Théophras Renaudot, qui a été publié à Paris entre 1631 et le 30 septembre 1915, qui paraît toujours aujourd'hui sous forme de petites affiches. Mais comment, personnellement, on peut exprimer notre pensée en tant que citoyen européen et français. Comment on peut se faire entendre ? Eh bien, avec une amie, on a décidé de créer un journal dans notre lycée, le lycée international Montebello, où dedans, on pourrait écrire ce que l'on veut, parler de
de ce qu'on veut pour émettre nos pensées, nos sentiments sur les événements qui se passent aujourd'hui et surtout parler de sujets qui sont tabous dans notre société, chez les jeunes et partout dans le monde. Pour exemple, pour Mars, on a écrit une revue sur la journée de la femme, le 8 mars. Du coup, tout le journal de ce mois a été consacré aux femmes sur leur situation dans le monde, sur comment elles sont traitées, sur tout ce qui peut être critère de beauté, harcèlement sexuel et tout ce qui va avec. Et du coup, c'est vrai que c'est des sujets assez tabous et ce journal permet d'en parler sans en être gêné et permet aussi et surtout aux lecteurs de le lire et de pouvoir en parler sans gêne.
Voilà, c'était donc la production réalisée par des élèves du lycée Montebello qui sont en classe de seconde, hein, si ma mémoire est bonne, je ne me trompe pas.
Non.
Alors, Fatoumata, toi tu n'étais pas directement intégrée au projet, mais tu as écouté ce reportage, et puis tu es là aujourd'hui. Donc comment tu ressens globalement cette production? Est-ce que pour toi c'est important de préparer quelque chose pour diffuser sur une antenne d'une radio libre? Et après on parlera peut-être globalement d'ailleurs de la liberté de la presse, et toi tu voulais aussi parler de la liberté peut-être de manifester ou de voter, ou comment ça se passe, d'accord, là, dans un pays soi-disant, enfin, pas soi-disant, hein, on va dire démocratique par rapport à d'autres. On va voir les nuances tout à l'heure. Donc, première chose, réaction, toi, de la globalité de ce sujet-là, comment tu as ressenti les choses?
Moi, je trouve ça bien de parler de ça dans une radio.
Oui.
Pour que les gens l'écoutent. C'est pas tous les pays qui ont le droit de manifester ou qui soient libres de faire quoi que ce soit.
Mmh.
On n'est pas permis de faire tout ce qu'on veut dans certains pays, surtout ceux qui ne sont pas démocratiques.
Alors, je ne sais pas, tu penses peut-être à certains pays, ou bien tu trouves qu'il y a beaucoup de pays où on ne peut pas être libre, notamment de présenter un sujet, une idée, au travers d'un média, qui peut être la radio, un journal ou autre. Est-ce que tu imagines qu'il y a beaucoup de pays où on ne peut pas faire ce genre de choses, par exemple? Faire un sujet qu'on diffuse sur une antenne libre.
Oui.
Oui.
Le Maroc, par exemple.
D'accord. Qu'est-ce qui gênerait, d'après eux? pourquoi ils rendent les choses impossibles, selon toi?
Je ne sais pas. Peut-être parce que c'est une monarchie absolue qui se trouve là-bas.
Oui, mais quel est l'intérêt d'une monarchie à ne pas laisser parler ses citoyens, d'une certaine manière? Enfin, si on peut appeler ça des citoyens.
De ne pas dénoncer ce qu'ils font de... mal, peut-être.
Oui, oui. On va faire un petit tour de table, hein, bien sûr. Elias a levé la main.
Oui. Par rapport à ça, je pense surtout que le Maroc, comme l'appelle l'insulte maghrébine, est surtout dirigé par la religion, qu'importe laquelle d'ailleurs. Et souvent, ceux qui veulent parler d'un sujet différent à la religion, c'est souvent forcément mal vu et... ils préfèrent censurer ça. Par exemple, en Iran, je me rappelle, il n'y a pas longtemps, j'ai vu un documentaire où ils censuraient des films. C'est-à-dire que dès qu'ils voyaient une scène, quel mot je pourrais employer? Un peu trop...
osé.
Comment?
Osé.
Ouais, voilà, osé. Ils coupaient dans le montage. Et genre, j'ai remarqué, sur tout le film, ils coupaient genre 10-20 minutes.
Mais c'est pas lié forcément à la religion. En Chine aussi, on taille bien dans les films. C'est quoi la différence?
Je dirais l'ouverture d'esprit.
Surtout la liberté d'expression aussi. Surtout.
Moi, je pense que c'est lié dans les deux cas.
Oui.
Donc, est-ce que vous avez le sentiment, parce que j'entends souvent des gens qui manifestent et qui ont l'air de dire qu'en France, on est beaucoup moins libre qu'avant. Est-ce que vous êtes jeune, hein? Est-ce que dans l'absolu comme ça, de votre jeunesse, vous avez l'impression qu'on peut quand même dire des choses, que vous vous sentez libre ou pas, à votre âge, par rapport à votre recul? Après, on peut imaginer par rapport à des gens qui ont vécu d'autres moments en France, hein, bien sûr, oui.
Bon, je pense que niveau liberté d'expression, en France en tout cas, on est quand même pas mal, dans le sens où on a quand même tout ce qui est le développement d'Internet, des réseaux sociaux, où on peut s'exprimer. Donc certes, on ne peut pas tout dire, parce qu'il y a certaines paroles qui ne se disent pas pour telle ou telle raison. Mais je pense que avec ce développement-là, et puis le fait que, par exemple, les manifestations ou d'autres choses comme ça, le vote, quoi, la démocratie française soit autorisée, ça nous permet d'avoir notre propre avis. Et je pense que niveau liberté d'expression en France, on est quand même bien placé par rapport à d'autres pays, justement, on le disait tout à l'heure, qui, eux, ne laissent aucune de ces libertés.
Est-ce qu'il y aurait un pays idéal dont vous auriez entendu parler en termes de droits, d'expression, etc. Est-ce qu'il y a un pays qui vous ferait rêver?
Moi, ouais. Un pays qui me ferait rêver, ouais. L'Allemagne. Mais après, forcément, je ne suis pas pro en termes de géographie et de tout ce qui s'y passe au niveau politique dans tous les pays. Hein. Mais je sais pas, il y a plein de pays que j'aime bien, pas forcément pour leur politique.
Il y a un pays qui a défini le bonheur comme le produit national brut, en fait, mais c'est le bonheur national brut, tu vois, un peu, c'est le Bhoutan qui dit le bonheur, c'est la base, c'est ce qui est essentiel, il faut parvenir à ça. Un pays qui se met ça en objectif. Est-ce que pour vous, le bonheur en termes de valeur peut-être républicaine d'une certaine manière, ça a du sens, ou bien le bonheur, c'est quelque chose qui vous paraît très abstrait et finalement un doux rêve? Oui.
Par rapport à ça, d'un point de vue économique, je pense pas que ce soit vraiment crédible. Mais après, c'est bien connu, quand on est content, de bonne humeur, on est motivé à travailler. Du coup, j'imagine que ça incite les gens à travailler et à être motivés en général. Après, le bonheur, bon... Ouais.
Julien, le travail, c'est ce qui rend heureux ou c'est être heureux qui donne envie de travailler?
Bah, pour moi, on peut être heureux en travaillant, mais il faut être épanoui dans son travail et aimer ce qu'on fait. C'est surtout ça le plus important.
Voilà, donc là, quand vous êtes en classe de seconde, hein, vous avez encore le temps de choisir. Hein. Vous êtes à l'heure encore d'expérimentation, on va dire ça?
Bah, pour l'instant, on n'a rien. Enfin, on a choisi nos vœux pour l'année prochaine, mais on n'a rien de définitif sur ce qu'on va faire plus tard.
Est-ce que parmi vous, hein, vous êtes quatre ici dans le studio, il y a un élève, une personne, on va dire, hein, qui sait déjà ce qu'elle veut faire? Oui.
Moi, je voudrais devenir psychiatre.
Psychiatre, hein, ouais. Bah, je crois qu'il en faudra de plus en plus. Hein. Je trouve les Français assez névrosés quand même, malgré la liberté. Alors, qu'est-ce qui pourrait expliquer pourquoi dans un pays aussi libre par rapport à d'autres, hein, il y a autant de personnes sous médicaments tranquillisants, etc. Comment vous voyez les choses? Parce que c'est quand même contradictoire, un pays où on a une vraie liberté, une certaine autonomie, et puis tout le monde n'est pas riche, mais il n'y a pas que des pauvres. On peut quand même globalement s'en sortir mieux que certains pays. Pourquoi autant de gens se sentent déprimés?
Premièrement, parce que j'imagine et surtout je vois que la vie aujourd'hui en France ou même dans le monde est de plus en plus rapide. On vit à 100 à l'heure et... Si on regarde d'un point de vue physique, l'être humain et psychique, l'être humain a du mal à supporter ça. Et j'imagine que c'est pour ça. On doit se lever de plus en plus tôt, se coucher de plus en plus tard. Dans une seule journée, on doit faire énormément de choses.
Je vais te donner un exemple. Si on se couchait à la nuit tombée, et si on se levait au lever du soleil, ou réciproquement d'ailleurs, hein, est-ce que ça changerait beaucoup de choses pour toi dans ta vie?
Déjà oui, parce que le coucher du soleil, ça dépend la saison, parce que du coup ça change.
Ouais, c'est ça.
Mais d'un point de vue biologique, quand il y a quand la lumière du soleil vient sur nos têtes, ça nous réveille. Du coup, c'est une sorte d'alarme naturelle, et j'imagine que...
Et pour toi, par exemple, est-ce que l'hiver, où les journées sont plus courtes, les jours de soleil, on va dire, de lumière, est-ce que tu es moins, moi, en train à travailler, tu préférais dormir davantage ou pas ?
Je pense que oui. Ouais. C'est un peu le cas de tout le monde. Ouais. En hiver, forcément, il y a le temps qui est froid. Du coup, le corps travaille plus pour procurer de la chaleur. Du coup, on est fatigué beaucoup plus facilement. Du coup, forcément, on a incité à se coucher plus tôt et à être fatigué en journée.
Sauf qu'on regarde la télévision, non ?
Ah, c'est sûr qu'avec la télé, Netflix et les réseaux, ça change beaucoup de choses avec l'effet de l'attention que ça procure. Et j'imagine, si on regarde d'un point de vue technique, la lumière bleue qui empêche l'endorphine de se sécréter dans le cerveau. Et du coup,
Donc, est-ce que tu peux dire que ça dérégule les cycles naturels, humains et même de société, pourquoi pas ? La télévision, voire même les écrans qui ne sont pas forcément à la télévision et qu'on peut éventuellement consulter à n'importe quelle heure du jour et de la nuit.
À force de me rappeler, je commence à me dire que oui.
Alors Anaïs piaffe d'impatience, donc elle a la parole. Vas-y.
Bon, j'aimerais rebondir sur le point que vous avez énoncé tout à l'heure, comme quoi certaines personnes, même pas mal de personnes, seraient déprimées en France ou dans le monde. Je pense que je pars du principe d'ailleurs que chaque personne est différente et que du coup ça relève un petit peu du personnel. Si une personne est déprimée, c'est peut-être à cause de son entourage, c'est peut-être à cause de cette personne en elle-même, peut-être qu'elle se sent pas bien parce que son métabolisme a décidé qu'elle elle ne se sentirait pas bien. Parce que pareil, la dépression, il faut savoir que c'est une maladie et il y a très souvent des raisons, mais des fois il n'y en a pas. Je pense que si les gens sont déprimés, il ne faut pas avoir seulement ça parce que on va à 100 à l'heure ou quoi. Je pense qu'il faut prendre un ensemble, dans le sens où cette personne est déprimée peut-être parce que cette autre personne l'a embêtée, parce que cette personne est méchante avec elle, ou parce que cette personne a besoin d'un temps de sommeil plus long et que son travail ou l'école dans laquelle cette personne étudie ne lui permet pas. Donc je pense que le cas de déprime, entre guillemets, c'est faut le prendre plus dans le sens un peu plus individuel, comme quoi chaque personne a son propre cas. Et voilà.
Donc, on comprend bien que chacun a sa propre problématique par rapport à la dépression ou par rapport à sa condition psychologique. Est-ce que globalement, tu as l'impression qu'en France, quand tu vois les gens dans la rue ou dans le métro, est-ce que les gens ont l'air heureux? Enfin, je pose la question à tout le monde. Ouais. Est-ce que vous avez l'impression que les gens ont l'air heureux quand vous les voyez dans la rue, par exemple ?
Dans la rue ?
Ou dans des lieux publics ?
C'est-à-dire que, pareil, on va rebondir sur un autre point tout à l'heure, on voit souvent des personnes avec leur téléphone scotché à la main. Et ça, c'est un phénomène de plus en plus courant. À croire que des personnes ne peuvent pas se balader dans la rue sans avoir leur téléphone. Donc je ne dis pas que c'est le cas de tout le monde, hein. Prends mon exemple, par exemple, je ne suis pas tout le temps sur mon téléphone non plus dans la rue. J'ai peur de trébucher. Et je pense d'ailleurs que vous non plus. Mais c'est vrai que, en fait, ce petit objet prend de plus en plus de place. Et quand on voit les gens dans la rue, on ne les voit pas sourire, on ne les voit pas être tristes. On les voit juste sans expression sur leur téléphone.
Zombie, tu veux dire ?
Peut-être pas zombie. C'est un petit peu poussé, je dirais. Mais on s'en approche quand même un petit peu par moment, pour certains cas.
Alors Elias,
par rapport à ça, je dirais plus que c'est une forme de neutralité, enfin paraître le plus neutre possible. Et après là, ça intervient dans mon éducation, c'est une forme de politesse de paraître neutre, de pas montrer ses sentiments. C'est une forme de politesse d'éducation. Bon, après, c'est vrai que comme les téléphones monopolisent beaucoup l'attention, forcément, on n'a pas forcément de sentiments qui se dégagent du visage, vu que tout se passe dans le cerveau, j'imagine. Enfin, oui, logique. Et par rapport à ça, je pense plus que c'est une forme de sobriété faciale. Je ne sais pas si je peux employer ça
comme
ça.
En même temps, je veux dire, tout à l'heure, par exemple, j'étais avec 5 personnes dans le métro, assez confinées. Hein. Les 5 personnes étant sur leurs écrans, j'ai failli leur proposer de se connecter entre eux, histoire de communiquer. Ça aurait été une idée assez sympa, non ? On pourrait le faire un jour. Vous faites un petit groupe Facebook, puis vous discutez ensemble en étant l'un côté de l'autre. Ça pourrait être marrant, non ?
Ouais.
On est sur des comique de situation, en fait, là, non ? Quand même, par moment, on peut regarder ça, on peut imaginer avec un peu d'humour. Hein. Il vaut mieux avoir de l'humour. Ça sauve pour avoir le moral, l'humour, c'est important pour toi, Julien ?
L'humour, c'est quand même une façon d'avoir un bon moral. C'est sûr que, bon, des fois, Enfin, quand on est seul, c'est moins... Quand il y a quelqu'un avec nous, c'est plus... Enfin, on s'amuse plus souvent. Mm-hmm.
Est-ce que vous avez l'impression en groupe que vous riez beaucoup d'une manière générale? Ou est-ce qu'il y a des leaders qui vous font rire? Est-ce qu'il y a des humoristes qui vous plaisent? On pourrait peut-être dire lequel, par exemple. Est-ce que tu as un humoriste préféré?
Je vous avoue que je ne suis pas trop les humoristes, mais bon, quand j'entends certains sketchs sur Internet, je trouve ça plutôt marrant.
D'accord. Il y a des choses un peu marrantes quand même sur Internet qui vous... Là, je vois arriver sur, des téléphones, hein, parfois une vidéo à laquelle je ne m'attendais pas du tout et qui est très drôle. Parfois, il y en a qui sont très drôles. Est-ce que vous pensez que ce téléphone, enfin je dis téléphone, on appelle ça comme on veut, hein, ouvre des possibilités très très nouvelles et différentes de ce qu'on nous imposerait à la télévision, ou est-ce que vous pensez que finalement tout ça c'est un asservissement quand même global?
Par rapport à ça, je pense que ça donne une perche aux GAFAM, Google, Amazon, Apple et
Facebook.
Facebook. Faut savoir que grâce au portable, nos informations circulent beaucoup plus facilement, surtout avec les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, WhatsApp, Skype, etc. Et du coup, souvent, nos portables, et je pense pour tous, sont analysés sur nos réseaux sociaux. Hein. C'est pas le portable en lui-même qui est analysé, quoique on ne sait pas. Et du coup, ça fait des analyses de ce que l'on cherche, et ça nous propose des choses qui pourraient éventuellement nous intéresser. Et ça c'est du marketing après, et du business, et ça nous propose des choses qui pourraient éventuellement nous intéresser, et du coup faire de la pub dessus, et du coup se faire de l'argent.
L'idée, c'est que vous restiez connecté le plus longtemps possible pour absorber les espaces publicitaires qui sont prévus, et puis parfois cliquer sur un lien qui vous envoie sur quelque chose que vous ne vouliez pas forcément a priori, mais qui vous emmène vers un univers commercial.
Exactement. Enfin, pour un exemple bête, et ça nous est tous arrivé en tant qu'adolescents, avoir envie de voir l'heure. Voilà, on ouvre notre portable pour regarder l'heure, on voit qu'on a une notification Snapchat. On va l'ouvrir, alors qu'on n'a même pas encore regardé l'heure, qui va nous emmener vers quelque chose d'autre. Imaginons un ami va nous dire « va regarder la vidéo sur Instagram », on va aller sur Instagram, on va voir la vidéo, et on ne sait pas, et on va tomber sur encore autre chose, voilà, et encore, et encore, et encore, et au bout d'un quart d'heure, on éteint notre téléphone, on l'éteint, on le met en veille, bien sûr. Et après, on se dit « Ah bah merde, j'ai pas regardé l'heure. » Et ça nous est tous déjà arrivé, et ça nous arrive plusieurs fois par jour, j'imagine. Enfin, je sais pas si... Non, jamais pour toi.
Non, personnellement.
Les pratiques sont différentes. Bon. Alors, si... tout à l'heure, je pensais aborder le sujet, notamment avec Fatoumata, de la majorité. C'est-à-dire, il y a un âge pour, en France, être majeur. Il y a un âge pour voter, c'est le même. Pour passer le permis, ça change. Il y a des âges qui évoluent. Est-ce que vous pensez que la majorité, elle peut être différenciée selon... par exemple, avoir un téléphone, avoir un accès sur Facebook, YouTube ou peu importe, à un certain âge, est-ce que vous pensez qu'on peut graduer d'une certaine manière l'égalité d'accéder à un support ou un espace qui soit différent des 18 ans de la majorité requise pour la plupart des choses? On peut imaginer qu'après 18 ans, le maximum d'autorisation, sinon de liberté, et en dessous, comment ça peut se passer? Est-ce que vous revendiquez soit des droits nouveaux pour des plus jeunes que 18 ans, soit peut-être de repousser la limite de 18 ans à plus tard, si vous jugez que 18 ans, c'est quand même jeune pour être non seulement libre, mais surtout responsable d'actes peut-être que vous ne voudriez pas endosser en termes de responsabilité. Pas tout matin, tu m'avais un peu interpellé là-dessus tout à l'heure. Avance-toi bien. Oui, voilà.
Moi, je dirais, pour la majorité, il faudrait l'amener vers 19 ou 20 ans, parce qu'il y a des personnes, même à 20 ou 21, là, ils sont encore immatures et savent.
Alors, je te rejoins à moitié. Est-ce que tu penses qu'il y a des gens qui finalement jamais ne seront immatures dans leur vie et qui n'auraient donc jamais le droit d'être majeurs? Est-ce que tu penses qu'on peut aller jusque-là?
Non, pas vraiment quand même.
Donc, il arrive un moment, il faut se mettre d'accord.
Ouais.
On fait un petit tour de table.
Alors,
Je pense que pour la majorité, 18 ans, c'est peut-être un petit peu jeune. Dans le sens où, à 18 ans, je prends l'exemple, par exemple, de ma sœur. L'exemple, par exemple, c'est pas pensé. Bref, à 18 ans, on vit presque rien. Je veux dire, ma sœur, à 18 ans, là, elle est majeure, elle a même pas encore passé son bac. Je veux dire, c'est cette année, son bac. Mais là, elle a eu 18 ans, elle a pas encore passé son bac. Elle a pas encore vécu d'expérience, par exemple... De stage réel dans une entreprise. Enfin, je ne comptabilise pas le stage de troisième qui était vraiment un stage obligatoire. Mais par exemple, voilà, elle n'a pas d'expérience en termes de travail, en termes de relations. Elle n'a pas d'expérience pure, entre guillemets. Enfin, je veux dire, il y a tout ce qui est amitié, etc. Mais ce n'est pas encore bien défini non plus. Donc je pense que à 18 ans, ça dépend forcément des personnes, effectivement. Là, je fais effectivement une généralité par rapport à ce que moi je connais dans mon entourage, mais je pense que c'est relativement jeune. Mm-hmm. Après, si on parle de la majorité par rapport au vote, parce qu'on a du coup entendu parler comme quoi la majorité pour voter serait décalée à 16 ans.
Le projet, c'était que pour les municipales.
Oui, pour les municipales.
Il y avait aussi le projet des élections par les étrangers. Hein. Ça a été repoussé, ça, par contre.
Hein. Même les 16 ans. Les 16 ans, c'était pour les municipales, pas pour les présidentielles ou législatives.
Je pense que ça pourrait être une bonne idée si, à l'école, on nous sensibilise un petit peu plus au vote.
Alors, moi, je vais te raconter, si je peux parler de récits personnels, que quand j'avais ton âge, la majorité, c'était à 21 ans. Et même bien après, à 21 ans, quand j'avais 18 ans, c'était toujours 21 ans, 19 ans, toujours 21 ans, tu vois. Donc moi, j'ai vraiment connu la majorité à 21 ans. Bon, il faut aussi admettre que dans la population de l'époque, quand c'est passé à 18 ans, il y avait peut-être plus de jeunes de 18 ans qui étaient déjà dans la vie active que maintenant, où beaucoup de gens poursuivent des études très tard et n'ont pas forcément l'occasion de vivre, donc d'aborder pratiquement la vie. Et ce que tu me fais remarquer là, moi, pour moi, ça me paraissait évident que 18 ans, c'était bien, mais avec des jeunes gens qui n'ont pas vraiment, qui ne se sont pas confrontés à la réalité de la vie, qui sont restés chez les parents, qui ont fait des études longues et qui sont toujours en attente, en fait, d'aborder le monde sans réellement pratiquer. C'est un peu comme passer le code de conduite sans avoir de voiture, quoi. Il arrive un moment, faut s'y mettre. Bah, mais... Donc là, par contre, pour apprendre à conduire avant 18 ans, avec la conduite accompagnée, tout ça te paraît bien ?
Bah, en vrai, pourquoi pas ? Mais après, forcément, il y a arrivé à un certain stade où ça pourrait devenir trop jeune, effectivement. Mmh. Mais par exemple, 17, 16 ans, pourquoi pas, si la personne en question est assez vigilante, je dirais. Mais avec des formations peut-être supplémentaires, etc.
Elias ?
Par rapport à ça, je pourrais en parler, vu que j'ai passé le code et j'ai le permis AAC, du coup la conduite accompagnée, que je pratique en ce moment. Et moi, je trouve que c'est au contraire beaucoup mieux de commencer à cet âge-là, parce qu'on a jusqu'à nous... 18 ans, maintenant 17 ans et demi pour passer le permis, mais on peut conduire qu'à partir des 18 ans. Enfin, je trouve que c'est très bien parce que il y a cette période où on a le temps d'apprendre tranquillement tous les dangers qu'on peut avoir sur la route. Et enfin, je trouve que ça m'aide énormément. Sincèrement, c'est ça. Et puis il y a les parents. Comme toujours, ça dépend qui. Ça dépend de qui, parce qu'on peut avoir des parents pas du tout motivés qui vont se mettre dans la voiture, mais qui vont dormir. Normalement, ou alors des parents qui vont aller dans des soirées un peu arrosées, ils vont dire à l'enfant, non, toi tu bois pas, moi par contre je me fais plaisir. Il va se prendre une grosse mûre, je vais dire, c'est pas grave, mon fils ou ma fille conduit. Voilà, c'est vrai.
C'est vrai.
C'est vrai. Et normalement, d'après le code de la route...
C'est assez rare, quand même. Hein.
Mais je pense que dans ces cas-là, en cas de contrôle...
C'est le parent qui prend.
Hein, c'est logique. Hein.
Même si l'enfant, qui normalement doit être sobre, c'est le parent va quand même prendre.
Voilà, donc, c'est vraiment une très mauvaise idée. Hein, on va dire ça comme ça.
Ça dépend pour qui, comme toujours.
Donc, c'est vrai que la majorité, c'est supposé rimer avec responsabilité.
Ouais.
Normalement.
Et maturité. évidemment. Ouais, alors évidemment, c'est un peu comme le droit de vote, c'est-à-dire que tout le monde a le droit de voter à partir de 18 ans, je pense. Hein. Ouais. Certains, on ne sait pas trop ce qu'ils ont dans l'esprit quand ils vont voter en termes de raisonnement, de structuration. Tout le monde peut, quoi. En même temps, heureusement que tout le monde peut s'exprimer. Quand je vois des gens qui disent on ne devrait pas donner le droit de vote à tel type de population, c'est pas ça la démocratie. C'est que la politique doit permettre à chaque personne de se sentir bien dans la société, donc être considérée, quels que soient ses problèmes psychologiques, ses problèmes intellectuels, ou sa culture, ou ses références. Donc, finalement, est-ce que la démocratie, ce ne serait pas aussi l'art du compromis ?
Du compromis ?
Si,
clairement, si.
Mmh. C'est vrai, quand on y repense. La démocratie, quand on doit voter une loi, ça met en moyenne à peu près 6 mois pour être votée, parce que à chaque fois, ça va à l'Assemblée générale, qui va l'envoyer au Sénat, mais ça va se renvoyer à l'Assemblée nationale, et à chaque fois, ça fait des allers-retours, parce qu'il y a une petite modification à faire, et du coup, à chaque fois, c'est le compromis. Comment ?
Une navette parlementaire.
C'est exactement ça. Oui. Et après, il y a les ministres qui doivent voter, qui doivent confirmer ça. Et voilà, c'est pour ça que c'est aussi long de voter une loi.
Après, c'est vrai que dans les élections, avant, je me souviens des anarchistes, je sais pas si connaît, élections piège à con, etc.
Il n'est pas là, Arsène, c'est lui qui a été là-dessus sur la pièce, presse libertaire.
Voilà, donc c'est dommage qu'il ne soit pas là parce que c'était une belle occasion d'entendre quelqu'un qui portait ce point de vue. Du coup, je ne sais plus ce que j'allais dire. Donc vous avez la possibilité de conclure un petit tour de table sur une idée que vous voulez transmettre. Là, il y a un micro, vous avez la responsabilité de pouvoir l'utiliser pour donner à des auditeurs un temps de réflexion sur un sujet. Vous avez 30 secondes pour trouver l'idée que vous voudriez véhiculer via le micro qui est devant vous. Alors, on fait un petit tour de table. Vous levez la main, celui qui est en premier, il lève la main, et c'est lui qui donne la première idée. On va faire un tour de table, on a 4 minutes.
Ça peut être une idée thématique par rapport au... une idée par rapport au thème qui a été développé dans l'émission.
Oui.
Moi, j'avais parlé du journal. Du journal de lycéens.
C'est un journal internet, c'est ça
Ouais, par rapport à sur internet, parce que les médias sociaux sont de plus en plus en vogue. C'est tout. Et avec une amie, on a décidé de créer un journal dans le lycée. Premièrement, la première motivation, c'est que quand on était arrivé au lycée, avec les séries High School Musical, ou je sais plus, où on voyait qu'il y avait un journal dans le lycée, c'était motivant à faire. Et c'était surtout parce qu'on avait envie de partager des idées et qui sont souvent très 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 tabous. Je peux donner des exemples ?
Moi, je veux bien.
Après, tu donneras une idée que tu veux transmettre.
Après,
je réfléchis auquel, parce que il y a des articles très 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 cucu. On a eu beaucoup de et à un moment, la principale voulait les supprimer vu que c'était un peu trop tabou,
un peu cru. Et
c'était non, c'est pas cru vu que ça, le titre, oui. Mais le contenu, non. Enfin, j'avais, en l'occurrence, c'était moi qui l'avais écrit. C'était sur... le titre, c'est « Réservé qu'aux hommes ». Voilà, et on avait parlé de la masturbation. Et c'était pour dire qu'à quel point c'était tabou chez les jeunes. Et un homme qui pratiquerait ça, aucun souci. Mm-hmm. C'est même limite une preuve de virilité, tandis qu'une femme... elle est directement insultée vraiment de tous les noms, quoi. Et moi, je ne comprenais pas ça.
C'est curieux ce que tu dis. Enfin, on peut refaire un débat, si tu veux, sur la sexualité et comment elle a traversé le temps. Parce que moi, j'étais en 68, tu vois, ici, ou 69, ici, sur cette radio. Et à l'époque, effectivement, tout était tabou, mais dans les médias, etc. Or, il y a quand même une vraie ouverture des médias, tout ce qui est autour de la sexualité, l'érotisme, etc. On pourrait imaginer que la situation est beaucoup évoluée depuis. Or, on reste sur quasiment les mêmes tabous, non ?
On reste sur les mêmes tabous qui se débloquent, qui se rebloquent. C'est très épileptique.
Bon, est-ce que c'est finalement pas inutile quelque part? Est-ce que le fait d'avoir des interdits, c'est quand même pas si mal parfois?
J'ai envie de redire, ça dépend pour qui.
Ça dépend pour qui. On revient à la notion de responsabilité, de maturité, tout à l'heure.
Forcément.
Alors, quelle est ton idée?
Essayer de se débloquer. Enfin, sincèrement, c'est parce qu'on vit dans un monde où il y a de plus en plus de nudité, j'ai envie de dire. Mm-hmm. Pas nudité, mm-hmm. mais sur les réseaux sociaux, on affiche absolument toute sa vie et des choses qui peuvent déplaire à certains et plaire à d'autres. Du coup, j'ai envie de dire, c'est surtout de l'ouverture. Mais après, ça dépend de l'éducation, comme tout à peu près.
Voilà, il nous reste une minute pour conclure. Qui veut prendre la parole pour terminer? Vas-y.
Personnellement, j'aimerais revenir du coup sur l'idée de vote tout à l'heure. On a remarqué d'ailleurs, pour les élections européennes, la moitié des Français seulement étaient partis voter. Donc c'était peut-être un petit peu plus que l'année dernière.
Donc il y a 4 ans.
N'importe quoi. Cependant, c'est quand même peu.
Ça interroge, oui.
C'est très très peu. J'ai un doute tout d'un coup. C'est 5 ou 4? J'ai un doute tout d'un coup.
Peu importe. De toute façon, c'est comme ça tout le temps pratiquement.
Et ce que je proposerais, du coup, ce serait de sensibiliser du coup les jeunes qui pourraient partir voter, dans le sens où les élections européennes, c'est important aussi. Il faudrait sensibiliser les jeunes, comme tout le monde en fait. Dans le sens où il faudrait par exemple présenter les partis, présenter ce qui s'y fait et tout, pour permettre aux gens d'aller voter tout simplement.
Ben voilà, c'est une bonne conclusion. Fatoumata, juste un tout petit mot.
En revenant sur ce qu'elle a dit sur le vote, il faut beaucoup, beaucoup sensibiliser les jeunes, surtout ceux qui viennent de devenir majeurs. Parce que même une seule voix pour quelqu'un, par exemple, s'il y a deux partis et l'autre à 49. L'autre a
5 ans. Ça joue, bien sûr, que chaque vote compte.
Chaque vote compte.
Chaque vote exprimé.
Il faut essayer plus en
Julien,
savoir. Voilà. Plus...
Ton idée,
donc,
Julien.
Pour le vote, quand même, il y a beaucoup de jeunes qui sont mobilisés cette année, c'est déjà pas mal.
Voilà, merci à tous de vous mobiliser et aussi d'être venus à Radio Campus. On sent derrière vraiment une volonté d'exister. Merci à tous.
Merci René.
Merci.
Au revoir.
Sur Radio Campus, l'heure de céder l'antenne, un programme de qualité, de musique bien sûr. À 18h30, ce sera l'heure de le mettre, et puis plein d'autres émissions passionnantes, à partir de 20h, etc. Allez faire un petit tour sur la grille de programme pour faire votre petite sélection. Puis vous savez aussi que vous pouvez écouter toutes les émissions. Au moins des 8 dernières semaines. Donc si une émission vous intéresse, vous réécoutez les épisodes précédents. En tout cas, on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres aventures sur le 106.6 FM Radio Campus, www.campusville.com et en DAB+, sur la métropole lilloise. Bonne soirée à toutes et à tous.